Chapitre 2. Léonard de Vinci sourit à la vie. Les vacances de la Toussaint s'écoulèrent rapidement et Mona fit sa rentrée. Camille arriva en avance aux alentours de 8 heures sous le préau blafard qui protégeait d'une désagréable pluie d'automne. Elle confia sa fille à Madame Hadji en lui expliquant rapidement comment se passait la convalescence et le suivi médical en place, rythmé entre autres par la consultation d'un pédopsychiatre chaque mercredi. Elle insista. La maîtresse devait certes être attentive à Mona, mais sans lui témoigner d'égards particuliers, rien qui la distingue de ses camarades. Et Mona reprit très vite ses marques, rattrapa sans mot gré les leçons de grammaire sur le complément d'objet direct et celles en mathématiques sur les familles de triangles. Comme ses amis, Jade et Lily, elle guettait les interventions de Diego au premier rang, qui ne ratait jamais une occasion d'irriter la maîtresse avec sa voix perçante. Cela amusait follement les trois amis. Quand Madame Hadji demanda qui était l'architecte de la tour Eiffel, il répondit comme une fusée sans lever le doigt « Disneyland Paris ». Et l'enseignante, dont les yeux s'écarquillaient à chaque sottise de ce genre, ne savait jamais vraiment très bien s'il s'agissait d'une mauvaise réponse ou d'une bonne farce. Lui non plus, d'ailleurs. Curieusement, c'était pendant les récréations que Mona, Jade et Lily se sentaient le moins à leur aise, en tout cas dès qu'il fallait se presser sous le préau à cause du mauvais temps et que tous les élèves se retrouvaient serrés comme des sardines, sans espace pour jouer. Le risque était d'autant plus grand de tomber sur Guillaume. Qui était-il? Un sale garnement de l'autre CM2 dans le bâtiment d'en face. Doté d'une jolie tête blonde avec de longs cheveux bouclés, un regard faussement tendre et une bouche crispée, Guillaume avait redoublé et il était, au milieu de ses camarades qui avaient 1 an de moins que lui, bizarrement grand. On aurait dit un collégien resté parmi les petits, une sorte d'anomalie dans l'écosystème de la cour. Il faisait peur, parce qu'il était parfois brutal. Un rien le faisait surgir et le rendait agressif. Mona le redoutait, mais le trouvait beau. Le mercredi à midi, tandis qu'elle se tenait devant la sortie pour attendre son grand-père, elle l'observa de loin. Il était accroupi tout seul et frappait le sol du plat de la paume. C'était étrange. Cherchait-il à écraser des fourmis? Y en avait-il en plein mois de novembre dans une école parisienne? Il releva la tête avec la vivacité d'une hyène et croisa les yeux de Mona, qui paniquait à l'idée d'être prise pour une espionne, s'étrangla à moitié, crispant mécaniquement les doigts sur son pendentif. Le visage de Guillaume parut hésiter entre plusieurs expressions. Il se leva brutalement, s'approcha à grandes enjambées. Mona sentit un bras l'attraper. Son grand-père était là. « Bonjour, ma chérie. » Elle éprouva un immense soulagement auprès de son aïeul adoré. Ils gagnèrent à nouveau le Louvre par la pyramide transparente. Et Mona, tout en s'enfonçant par l'escalator dans le ventre du musée, regarda à travers la verrière les nuages lourds de novembre et les gouttes qui clapotaient à sa surface. Sans trop savoir pourquoi, elle songea à une immense cascade à travers laquelle il fallait passer pour se glisser dans une grotte, vers des profondeurs secrètes et inquiétantes. « Tu te souviens de ce que nous avons vu la dernière fois, Mona ?»«
Le docteur Botticelli !» dit-elle en s'esclaffant.
« Oui, c'est bien ça. Vénus et les trois grâces de Botticelli. Et aujourd'hui, nous allons voir quelqu'un qui porte ton prénom. Tu vois de qui il s'agit ?»«
Bah oui, Dadé !»
répondit-elle avec l'air blasé qu'ont les enfants quand ils pensent qu'on devrait cesser de les prendre pour des enfants.
« Arrête un peu. On a dit que tu me parlais en adulte. C'est la Joconde. »
Et ils marchèrent, main dans la main, jusqu'à la plus fameuse salle du palais, vers laquelle convergeaient tant de touristes hagards, en quête d'une émotion que, généralement, ils ne trouvaient pas, faute d'une clé de lecture vraiment efficace. Henri y avait réfléchi. Il savait que devant ce tableau célébrissime, reproduit à des millions d'exemplaires, l'attente était chaque fois énorme et la déception proportionnée. Mais pourquoi donc, se demandait-on sous le coup de la frustration, est-ce la plus connue des œuvres d'art, la plus prisée et la plus admirée? Qu'est-ce donc qui la rend inaccessible à ma sensibilité? Et le soufflet retombait. Lui, Henri, en amateur passionné, savait tout de la Joconde et de son histoire tumultueuse. Il savait qu'elle avait d'abord été commandée par Francesco del Giocondo, un riche marchand d'étoffes florentin, à Léonard de Vinci en 1503, mais que Léonard ne livra jamais le portrait de son épouse Lisa Gherardini, d'où le surnom de Madonna Lisa et son abréviation en Mona Lisa, qu'il jugeait insuffisamment achevé. Il savait que le tableau accompagna son auteur en France, lorsque le roi François Ier l'invita à finir ses jours au Clos Lucé. Il savait que longtemps, l'œuvre fut ni plus ni moins estimée que les autres œuvres de Vinci et qu'elle ne prit sa pleine dimension légendaire qu'en 1911. Cette année-là, Vincenzo Perugia, un vitrier du Louvre, s'étant laissé enfermer un jour de clôture, décrocha le panneau de peuplier de 77 cm sur 53, le glissa sous ses vêtements et rentra chez lui avec le trésor, qu'il emporta ensuite en Italie. Henri avait également compulsé, non sans un certain agacement, toutes les hypothèses les plus folles au sujet de cette effigie. On la soupçonna d'être un visage écran derrière lequel se dissimulait la monstrueuse méduse, ou d'être un homme, et pourquoi pas Vinci lui-même travesti. On prétendait en outre que le tableau, présenté sous une épaisse vitre résistant au coup de feu, n'était qu'un leurre, une simple copie de l'original conservée dans les réserves du musée. Il fallait pouvoir se départir de cette hystérie. Et Henri voulait que Mona prît le temps de regarder la merveille de Léonard sans penser à rien d'autre qu'à ce qu'elle avait devant les yeux. C'était une femme assise, cadrée de manière serrée, en buste, de trois quarts, le bras gauche posé sur l'accoudoir d'un fauteuil dont il n'y avait pas d'autre élément apparent. La main droite attrapait sans le serrer le poignet gauche et imprimait dans tout le corps du modèle un infime mouvement de rotation qui l'animait, l'inscrivait non seulement dans un espace, mais encore dans une durée. Elle était vêtue d'une robe brodée de couleur sombre qui contrastait avec la peau éclatante de son décolleté et de son visage. Une fine gaze recouvrait sa tête, d'où coulait jusqu'à sa poitrine une chevelure torsadée scindée par une raie au milieu. Le visage avait quelque chose de très légèrement replet, où des joues fermes, un grand front et un petit menton encerclaient un nez droit, des yeux marrons tournés vers la gauche et fixant le spectateur, une fine bouche à peine courbée par un léger sourire. Les arcades sourcilières étaient épilées. Dans le dos du modèle se trouvait le muret d'une loggia, derrière lequel se déployait, comme s'il était loin, très loin, un paysage aux accents fantastiques. Il y avait sur le côté gauche du tableau une route serpentante à travers une plaine qui s'élevait soudain en des volumes rocheux. Elle jouxtait un lac bordé à l'horizon de montagnes gigantesques, abruptes et violemment escarpées. On en trouvait également sur la droite de la composition, qui continuait d'étaler pierre, terre et eau, mais montrait de surcroît un édifice construit symétriquement à la route sinueuse. Il s'agissait d'un pont à cinq arches, enjambant une rivière. Mona avait bien de la chance. Parce qu'elle était petite et menue, personne parmi la foule qui se pressait n'osa la bousculer. Surtout, la qualité de concentration dont elle faisait preuve, droite devant l'œuvre qu'elle parcourait patiemment de ses yeux alertes, captiva le public tout autant que la Joconde elle-même. À tel point que des touristes finirent par photographier discrètement la fillette de dos dans l'axe du chef-d'œuvre, fusionnant avec lui. Les gardiens se demandaient comment une gamine pouvait examiner si minutieusement cette peinture que d'habitude les visiteurs accrochaient rapidement du regard, comme le pompon d'un manège, avant de regagner très vite la sortie. Mona eut beau avoir un peu moins de difficulté à plonger dans le tableau de Vinci que dans la fresque de Botticelli une semaine auparavant, elle céda, là encore, au bout d'une douzaine de minutes. Fatiguée, elle rejoignit son grand-père resté un peu à l'écart. « Alors, Mona, qu'as-tu vu ?»«
Tu m'avais dit un jour que Léonard de Vinci avait inventé le parachute, mais son ciel est complètement vide. »
« S'il t'a fallu plus de 10 minutes pour t'en rendre compte, je ne te félicite pas. »«
C'est que j'ai aussi cherché des machines volantes cachées, car tu m'avais dit qu'il en avait imaginé. » »«
Oui, c'est vrai. Léonard était un ingénieur autant qu'un peintre. Il monnayait ses services auprès des princes pour améliorer le contrôle des fleuves et des rivières, pour aménager les territoires, pour fortifier la défense des cités contre les ennemis.
Il était si curieux et intelligent qu'il étudia de très près le corps humain et disséqua des cadavres pour en comprendre le fonctionnement. Il devait avoir lu beaucoup de livres.
Tu sais, aux alentours de 1500, quand Léonard vivait, les livres étaient rares. L'imprimerie venait à peine d'être inventée. Il possédait environ 200 volumes dans sa bibliothèque et c'était déjà énorme. Mais lui, qui était très solitaire, écrivait abondamment, des milliers et des milliers de pages, sur tous les sujets possibles. Il a en définitive beaucoup plus écrit que peint. On ne connaît pas plus d'une dizaine de tableaux de sa main. Et encore, on n'est pas certain qu'ils soient tous authentiques.
Et pourquoi est-ce qu'on retrouve celui-là partout, Dadé? Je me rappelle même que mamie avait une grosse tasse pour son petit déjeuner où il était dessus.
Moi, cette tasse, je préférais qu'elle la laisse au placard.
Et pourquoi donc?
Parce qu'un petit déjeuner, ça doit être gai. Et ce tableau, il est un peu triste.
Ah oui? Et qu'est-ce qu'il a de si triste?
C'est son fond. Il est sombre et il est très vide.
Effectivement.
Mais attends un peu.
Je te l'ai dit, c'est un tableau ancien. Les couleurs de ce paysage à l'arrière-plan, aux accents un peu brumeux, ont bruni, comme un vieux journal. Tout simplement parce que les vernis, qui sont censés protéger la couche de peinture, s'usent avec le temps. Ils s'encrassent et prennent une apparence un peu mélancolique. Mais tu peux être certaine qu'à l'origine, cette nature environnante, avec ses montagnes, ses chemins tortueux, ce grand lac et ce vaste ciel, était d'un bleu presque électrique.
Électrique? Qu'est-ce que tu racontes, Dadé? On s'éclairait à la bougie en ce temps-là.
Merci pour l'information, Mona.
Tu sais, cela n'empêchait pas les artistes de chercher des sources d'énergie. L'électricité, c'est une énergie. Elle permet de produire de la chaleur, de la lumière et du mouvement. Eh bien, garde en tête que Léonard chercha semblablement dans sa peinture une énergie pour produire une force sur toi.
Sur moi?
Ah, c'est drôle, parce qu'on est censé rester immobile devant le tableau.
Henri se mit à rire.
Et son rire la fit rire à son tour. C'est là, précisément là, qu'il aurait alors voulu lui parler du philosophe Alain et de ce qu'il racontait dans ses propos sur le bonheur. Alain y affirmait que ceux qui s'efforcent d'être heureux méritent une médaille civique, parce que leur propre résolution de se montrer content, satisfait, au prix parfois d'un exercice un peu appuyé de la volonté, irradie sur autrui, exactement comme un éclat de rire peut provoquer une réaction en chaîne. La recherche du bonheur, selon Alain, ne relève pas du développement personnel et d'une petite quête individualiste. Elle constitue une vertu politique. C'est un devoir envers les autres que d'être heureux, disait-il. Cela, sans doute, était trop compliqué pour Mona. Néanmoins, cette leçon essentielle, la Joconde de Léonard la délivrait à sa manière. Regarde, tout ce paysage que tu trouves triste est en fait en mouvement, animé par les énergies de la vie, une sorte de pulsation originelle. Il n'empêche, tu as tout à fait raison, il est inquiétant parce que rien n'y est vraiment organisé. Oh, il y a bien ce pont à droite, mais nul arbre, nul animal, nul être humain.
Cet arrière-plan pris dans l'atmosphère légèrement vaporeuse et dominé par un grand ciel gris-bleu s'avère à la fois grandiose et désolé. Léonard ajoutait très patiemment pendant des années et des années d'infimes glacis, c'est-à-dire des couches de peinture transparentes qui donnaient plus de densité et de profondeur au tableau. Il les appliquait les unes par-dessus les autres, et c'était d'ailleurs si long qu'il ne terminait jamais ses œuvres. Ces couches avaient également pour effet de procurer un léger sentiment de vibration de toute la matière. C'est ce qu'on appelle le sfumato en italien. Le sfumato, tout à la fois, dilue les choses et les lie entre elles. Oui, mais pourquoi donc elle sourit comme ça? Ça me paraît bizarre quand même. Elle sourit d'un infime sourire. Derrière elle, le vaste paysage ressemble à l'univers en pleine phase d'élaboration, soumis au chaos des énergies qui le traversent. Un chaos fascinant et angoissant. Mais elle sourit avec une justesse délicieuse, sans arrogance ni condescendance. C'est un sourire infiniment serein, amical, et elle t'invite à faire de même. Alors, viens, Dadé. C'est nous qui allons lui sourire.
Je vois que tu as compris.
Léonard de Vinci disait de la peinture qu'elle suscitait un sentiment en miroir. L'image d'un homme qui bâille fait bâiller. L'image d'un homme agressif rend agressif. Et l'image d'une femme qui sourit de ce sourire désarmant, est une invitation à sourire de même. C'est cela l'énergie que sa peinture cherche à procurer. S'ouvrir à la vie, sourire à la vie, même au-devant de ce qu'on discerne peu et mal, de ce qui est encore obscur et informe, d'un monde désert et confus, car c'est là le meilleur moyen d'y instiller un ordre heureux. Et c'est là le meilleur moyen pour que ce bonheur ne soit pas seulement celui bouleversant et mystérieux d'une femme de la Renaissance adossée à une loggia, mais celui de l'humanité entière. Aussi, Mona voulut-elle imprimer aux commissures de ses lèvres un mouvement ascendant. Mais le silence qui suivit l'explication de son grand-père, la générosité dont il avait fait preuve pour la lui transmettre, et puis, il fallait bien l'avouer, la beauté diffuse de ce que lui confiait sa voix grave, lui soulevèrent le cœur. Éclose par l'émotion, une fine buée de larmes jaillit de ses paupières, estompant d'un seul coup les lumières du Louvre.